Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 5 mars. Et émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Voilà le menu. 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Cette année marquée par une journée de mobilisation, ou plutôt une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. On aura avec nous Madame Delphine Collin, secrétaire nationale de l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT. Après, on ira au Portugal pour parler des communautés portugaises et au Parlement qui a approuvé un certain nombre de projets. Et on reviendra dans le 94, 22e édition de la Biennale de danse du Val de Marne. On parlera de musique au niveau européen au sujet d'un projet Europa Nostra. Et finalement, on parlera où ? À Dijon, une ville en papier, un spectacle, plus exactement, une voyage poétique et musical dans l'imaginaire de la grande peintre portugaise Vieira da Silva au musée des Beaux-Arts de Dijon. Et on part de mardi prochain, le 7, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Madame Delphine de Collin, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, 7 et 8 mars, bon, on va y arriver, 8 mars, grève féministe, mais déjà parlons de cette journée, une nouvelle journée de mobilisation au niveau national, toutes les centrales syndicales appellent justement à ce mouvement, manifestation et grève, parce que les syndicats considèrent qu'on est dans une situation assez grave et qui remet en question un certain nombre de droits des travailleurs, à commencer par les femmes, mais enfin, on ira tout à l'heure, une journée nécessaire.
Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis le 19 janvier, l'intersyndicale complète, hein, avec les organisations de jeunesse également, appelle à des journées de mobilisation. Il y a eu des manifestations très très importantes partout en France, même dans des toutes petites villes, sur des petites îles bretonnes. Enfin, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, le gouvernement est toujours sourd à cette mobilisation, à cette finalement quelque chose qui est porté par l'ensemble de la population, hein, et donc il faut passer à une étape plus importante. On appelle à mettre la France à l'arrêt. Mmh. Donc il y a des grèves reconductibles qui se décident dans un certain nombre de secteurs, qui se décident sur les lieux de travail, et puis les organisations de jeunesse également appellent à faire grève ce jour-là.
Voilà, et d'ailleurs, les grèves ont déjà commencé au niveau des centrales nucléaires. Alors, je vais vous citer le porte-parole du gouvernement, Monsieur Olivier Véran. Je cite, « Mettre la France à l'arrêt reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, à négliger la santé de nos enfants ou encore à rater le train du futur. »
Alors, on a oublié, peut-être, Monsieur Véran a peut-être oublié qu'on a été, durant la crise Covid, il y a eu des confinements, il y a eu où on était vraiment à l'arrêt, hein, on ne pouvait pas sortir de chez nous, et on a bien vu que ça, c'était le gouvernement qui l'avait à ce moment-là décidé pour, dans un cadre d'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, c'est toujours un renversement de responsabilité, c'est une stratégie très classique. En fait, le problème, c'est pas cette réforme.
Madame Collin, je pense qu'on a été coupé, on a un petit problème au point de vue technique. Madame Collin ? Bon. On va essayer de rappeler Madame Collin. Apparemment, il y a un petit problème au niveau technique. Je rappelle qu'on est en train de parler avec Madame Delphine Collin, secrétaire nationale, justement, de syndicat des fonctionnaires CGT. Bon, on va essayer d'avoir à nouveau le contact avec Madame Collin. Allô? Bon. Alors, on va peut-être passer un petit peu de Madame Collin.
Oui, je suis à nouveau.
Ah, pardon, on a été coupé.
Oui,
Alors, mais justement, par rapport à cette réforme des retraites, on va y arriver au recul des droits. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce projet du gouvernement, dans la mesure où on dit, le système de retraite par répartition risque d'être en faillite?
Oui, donc j'ai pas tout entendu de votre question puisque c'était découpé, mais j'ai cru comprendre. Donc toute la question du déficit, en fait, des projections que fait le gouvernement. Déjà, c'est, il prend des projections. Souvent, c'est pas très honnête dans ce qu'il va utiliser hein, comme projection, notamment du Conseil d'orientation des retraites. Et donc, en fait, nous, on dit, il y a vraiment des solutions. Notre système, il est vraiment, un système de solidarité. Il est important entre les générations. Il fonctionne. Il est bon, mais il est largement perfectible. On peut améliorer les choses, notamment avec par exemple, l'égalité salariale. Hein, on sait que l'égalité salariale, elle permettrait d'avoir des cotisations supplémentaires qui viendraient dans les caisses de retraite. Et plein d'autres sujets comme ça. Moi, je suis dans la fonction publique. Dans la fonction publique, on a donc le gel de ce qu'on appelle le point d'indice, le gel de nos rémunérations depuis plus de 10 ans. Il y a eu une petite augmentation récente là due à l'inflation, mais largement pas suffisante. Si on augmente les salaires de la fonction publique, c'est 5,2 millions, un peu plus même de salariés et donc de cotisations qui rentrent dans les caisses de retraite.
Alors, on avait dit que les femmes, finalement, elles allaient rien perdre. Bon, le gouvernement a dit tout et son contraire. Bon, on va essayer de voir clair. Même, j'ai l'impression que le ministre du Travail a du mal à comprendre ses notes. Justement, donc, les femmes, 2 années de plus, bon, c'est valable pour tout le monde, mais la maternité, un certain nombre de choses qui vont disparaître, on risque de disparaître.
Oui, puisque effectivement, pour compenser les inégalités qui sont dues notamment à la maternité, à des interruptions de carrière, des congés parentaux, etc., il y a des mesures qui permettent de corriger un petit peu ça. Et donc, en fait, il y avait à peu près 120 000 mères qui partaient à la retraite à 62 ans, elles vont perdre cet avantage puisqu'elles seront obligées d'attendre 64 ans pour partir à la retraite, par exemple. Le gouvernement dit, mais on va prendre en compte le congé parental, sauf qu'en fait, c'est 4 trimestres, donc en fait, c'est un an pour... qu'on ait 1 à 3 enfants, enfin peu importe le nombre d'enfants, c'est 4 trimestres au total. Donc en fait, on voit que on ne va pas régler ce problème-là. Et puis, vous le savez peut-être, en fait, les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, elles sont finalement le miroir grossissant des inégalités salariales qui sont toujours plus d'un quart en moins pour les femmes.
Oui, donc quand en faveur des femmes. Quand on parle de retraite minimum de 1 200 euros, bon, finalement, c'est pas de 1 200, c'est pas pour tout le monde. Bon, encore une confusion totale.
Oui, parce que c'est des choses très techniques hein, sur la retraite, donc on va pas aller dans ce détail-là, mais effectivement, hier, j'étais notamment avec des accompagnants d'élèves en situation de handicap hein, qui sont travaillent dans les écoles, qui sont des contractuels, qui vivent avec moins de 900 euros par mois. Elles me disent, ah bon, 1200 euros, mais quand on nous a annoncé, on s'est dit, mais je vais gagner plus à la retraite que dans ma vie. Ça paraît bizarre. Et en fait, effectivement, toute la communication du gouvernement, elle était assez trompeuse. Bon, aujourd'hui, le chiffre des bénéficiaires fond comme neige au soleil. Mais en tout cas, il faut avoir une carrière complète, il faut avoir à travailler à temps plein, et on sait que les femmes en fait sont très touchées par le temps partiel. 82% des plus de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. On sait que il y a des trous dans la carrière façon plus persistante chez les femmes, avec beaucoup de précarité aussi.
Alors, en ce qui concerne les salaires, apparemment les femmes touchent un quart en moins, et c'est exactement la même chose au niveau de la fonction publique.
Les chiffres, ils sont un tout petit peu en dessous, mais on n'a pas de... Mais il y a des chiffres assez intéressants, d'ailleurs, qu'on exploite, puisqu'ils viennent de la de la direction de la fonction publique, donc c'est pas la CGT qui le dit, hein, c'est l'administration, les femmes fonctionnaires de l'État, donc on prend pas en compte là, ils ont pas été en capacité de le faire pour celles qui sont contractuelles ou qui sont dans l'hospitalière ou à la territoriale, mais pour les femmes fonctionnaires de l'État, elles perçoivent 525 euros de moins que les hommes. Et ça, c'est une moyenne. On a jusque au service, enfin, par exemple, les plus mauvais élèves, on va dire, c'est au ministère des Affaires étrangères où il y a plus de 2000 euros de différence.
2000 euros. Alors, justement, le Sénat, il a commencé déjà le débat sur les régimes spéciaux. Bon, il y a des régimes qui ont été supprimés. Normalement, au niveau de l'énergie, on parle également de la RATP. Alors, une petite question. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est ces régimes spéciaux? Et pourquoi est-ce que les sénateurs commencent pas par supprimer le leur?
Ah, c'est vrai que c'est un sujet, souvent on voit des petites pancartes en manifestation, je veux bien une retraite de député ou de sénateur, effectivement c'est un régime, donc on verra hein, s'il y a des amendements pour des sénateurs pour supprimer leur régime spécial. Mais je pense qu'il faut toujours voir les choses en fait d'une autre façon, et je pense que personne ne tombe dans ce piège-là, c'est-à-dire que on ne voit pas les choses en les nivelant par le bas. Il y a aussi le fruit d'une histoire qui fait qu'il y a des régimes spécifiques avec justement donc un certain nombre de métiers qui sont liés aussi à des services publics très très importants pour l'ensemble de la population. Donc ils ont une histoire, ils ont une spécificité, ils ont aussi voilà un système qui ne met pas en danger du tout le système général.
Oui, voilà, il y a certains autres systèmes autonomes, comme c'est le cas de l'énergie, je crois, où ils sont largement bénéficiaires, donc ils ont de quoi faire. Alors, quand on parle des retraites, bon, les femmes, c'est pas pour rien que la CGT, pas seulement, certains nombres d'autres centrales syndicales appellent grève féministe le 8 mars.
Oui, tout à fait.
Pourquoi faire un mouvement à part? Bon, je sais que c'est le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et pas simplement journée internationale des femmes, ça veut rien dire. Oui. Alors, mais pourquoi lancer un appel pour une grève féministe?
Alors c'est vrai que cette idée de grève féministe, en fait, elle ne date pas que de cette année. Hein. Ça fait plusieurs années que la CGT, FSU et Solidaires, avec de nombreuses associations et collectifs féministes, appellent à la grève féministe, c'est-à-dire la grève sur son lieu de travail, bien sûr, avec un symbole autour aussi de 15h40, puisque c'est l'heure symbolique à l'heure à laquelle les femmes, en fait, travaille gratuitement. Donc il peut y avoir des actions, des débrayages ou des rassemblements à ce moment-là. Et puis c'est aussi voilà, on arrête de faire tout, des tâches domestiques, voilà. C'est aussi voilà, beaucoup d'associations féministes appellent à tout arrêter. Et je me souviens d'un article du monde diplomatique qui m'avait énormément marqué, c'était au moment des gilets jaunes, avant la crise Covid, et qui disait qu'il y avait une force insoupçonnée des travailleuses invisibles. Et effectivement, si toutes ces travailleuses s'arrêtent, tout s'arrête en fait.
D'ailleurs, Madame Paula, on a vu ça pendant le confinement, pendant la Covid.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, tous ces métiers très féminisés, du soin, du lien, ont montré vraiment toute leur utilité sociale, et on s'est bien rendu compte que elles n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. On considère que c'est naturel hein, d'éduquer, de soigner, etc. Mais en fait, ça relève vraiment de compétences et de qualifications qui doivent être reconnues. C'est une grande bataille que l'on mène, et c'est central.
Donc, vous dites, bon, je lis hein, un communiqué de la CGT, double journée égale à demi-retraite pour les femmes.
Oui, puisque effectivement, il y a aussi toute cette question pour, en fait, de cette double charge, en fait. On l'a vu, même pendant le Covid, on parlait de triple journée, puisqu'il fallait en plus faire la classe aux enfants. Mais qu'effectivement, il y a ce... il y a le travail, les femmes travaillent, même si il y a aussi la question de l'accès au travail, puisqu'il n'y a pas assez de solutions de garde, par exemple, pour les enfants. Donc, en fait, dans un couple, ben, quand la femme gagne moins que l'homme, le calcul peut être vite fait, et donc c'est la femme qui s'arrête. Hein. Il n'y a que un homme sur neuf qui s'arrête ou qui réduit son activité pour s'occuper d'un enfant, alors que c'est une femme sur deux. Donc c'est vrai que ça va avoir des effets sur la carrière, ça va avoir même des effets assez impressionnants. Hein. Des fois, il suffit d'être susceptible d'avoir un enfant ou de s'occuper même de ses parents ou de ses beaux-parents pour être discriminé. Donc tout ça, ça va avoir des effets. Effectivement, il y a aussi beaucoup de précarité hein, pour un certain nombre de femmes qui sont en situation monoparentale aussi, qui s'occupent seules des enfants. Il y a beaucoup de lois à l'heure actuelle qui sont très très discriminantes et qui vont aggraver la précarité des femmes sans papier, des femmes migrantes, avec la loi Darmanin ou encore la loi sur le logement. On a vu qu'effectivement les femmes sont les plus pénalisées par ces réformes régressives comme celle de l'assurance chômage également.
Et pourtant, on parle beaucoup de parité. D'ailleurs, en règle générale, on dit homme-femme au lieu de dire femme-homme.
Oui.
Bon, mais c'est étonnant. Alors, mais à propos des droits, ben, on arrive pratiquement à la fin de l'interview, Madame Collin.
Oui.
L'IVG. L'IVG en droit acquis. Bonjour, Madame Halimi et d'autres qui ont lutté pour ça. Qui est remis en question avec la clause de conscience de la part des médecins. Bon, on peut continuer comme ça, c'est pas le débat. Mais justement, le Sénat, il a accepté l'inscription de l'IGV dans la Constitution, comme une liberté, pas un droit. Liberté et pas un droit.
Donc c'est vrai que pour nous, c'est très important cette notion de droit, puisque effectivement, ça va avec aussi l'effectivité de ce droit et les moyens aussi qu'on met, puisque il y a beaucoup de fermetures de maternité, de centres IVG. Il y a tout un tas de choses qu'un droit, il est accompagné aussi de moyens et de volonté politique aussi pour qu'il soit réalisé, il soit effectif. Alors qu'une liberté, voilà, c'est un principe, c'est différent.
C'est différent, oui, ça peut être remis en question tout facilement.
Oui. Puisque effectivement on le voit du côté juste de est-ce que j'ai cette liberté d'avorter ou pas, c'est une question, mais ça doit être en plus un droit.
Voilà. Alors à propos de droit, on revient au Sénat, hein, c'est numéro 317, proposition de loi. Présenté par Monsieur Stéphane Le Redulier, sénateur. Proposition de loi visant à compléter le cadre légal réglementant l'exercice du droit de grève. Donc, je cite, chapitre 3, dispositions particulières dans les secteurs de transport en commun. Article L, etc. Bon, je ne vais pas dire tout. Pour les personnels des secteurs publics et privés des transports en commun, il est impossible d'exercer le droit de grève. 2. 1. À compter de la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés mentionnés à l'article 1, 2. Les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période de vacances des classes mentionnées à l'article, je sais pas quoi. Donc, c'est le droit de grève qui risque d'être mis en question?
Alors, c'est vrai que, parce que là, on se rend compte que ce droit, il est fondamental, comme la liberté de manifester, et qu'il est une arme essentielle dans la bataille sociale qu'on mène aujourd'hui. On fait la démonstration que la grève, c'est un droit et qu'il peut permettre de gagner des droits, comme il l'a permis dans l'histoire sociale. Mais on a de plus en plus d'atteintes aux droits de grève. Donc, des choses qui se sont au fur et à mesure, on grignote, on essaye d'atteindre ce droit. Et puis, il y a aussi des réalités. On a eu tout récemment une décision de la Cour européenne des droits sociaux qui condamne encore la France sur le fait que dans la fonction publique d'État, on a quand on fait une heure de grève, on a une journée de salaire en moins. Et donc ça, c'est complètement inégalitaire, complètement illégal. Le gouvernement a encore confirmé que non, il maintiendrait ça. Et c'est ce qui empêche aussi certains fonctionnaires des fois de faire grève. Et s'il faut pas se leurrer, perdre une journée de grève, c'est aussi quand avec l'inflation, avec les petits salaires, c'est difficile. C'est compliqué, mais de plus en plus, chacun et chacune se rend compte que perdre une journée ou plus de salaire, ça vaut largement le coup, vu l'enjeu de la bataille, et de plus en plus de salariés décident de se mettre en grève, et ils le décident collectivement en plus.
Donc le 7, la France à l'arrêt
Je pense, ça a l'air bien parti pour. Mmh.
Alors, parce que finalement, au milieu de tout ça, il y a la question des retraites, mais tout le reste, il y a un problème avec le pouvoir d'achat, avec la précarité, etc., etc. C'est étonnant que finalement, c'est les retraites et que ça rassemble tout le monde, et les autres problèmes, comme ça n'existait pas, les pleins, les licenciements, etc., etc., tout un tas de choses. Bon, donc, c'est peut-être la question des retraites qui va faire que le mouvement y continue et qu'il s'élargisse.
Oui, on pense que en fait, en tout cas, c'est très fédérateur et ça permet en fait de faire des liens sur tout un tas de choses. On se rend compte là, on l'a beaucoup évoqué ensemble sur les questions d'égalité salariale. Les ponts, ils sont énormes sur la question de l'augmentation des salaires. C'est une solution, l'augmentation des salaires aussi, pour avoir une vraie réforme progressiste en fait des retraites. On se rend compte que finalement toute la question de la précarité, de la pénibilité au travail, des conditions de travail, et puis le fait de la réduction du temps de travail, ça émerge énormément. Donc la réduction du temps de travail, c'est la retraite à 60 ans et moins pour les métiers pénibles, mais ce qu'on défend et ce qui est de plus en plus audible, les 32 heures pour pouvoir profiter aussi de sa vie.
Oui. Parce que la retraite, c'est un salaire différé.
Tout à fait, c'est un salaire socialisé. C'est effectivement, il y a des cotisations c'est un salaire.
Voilà, cotisation et pas charge.
Tout à fait, c'est important le poids des mots.
Voilà, donc on rentre dans une sémantique novlangue, comme disait Monsieur Orwell. Journée nationale de mobilisation et de grève, ça sera mardi 7 et le 8, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et grève féministe également. Madame Delphine de Collin, merci. Je rappelle, vous êtes secrétaire nationale de l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Et quitte à faire, on va rester d'ailleurs encore dans la question des femmes. Avec quoi? Avec la compagnie Jolie Môme. Hein? Allons-y, l'hymne des femmes.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées. Femmes hors du monde reléguées, devant nous femmes esclaves, et brisons nos enfants. ils vous sont divisés. Les femmes tirent nos sœurs séparées. Le monde va descendre. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le temps de femmes esclaves, épuisons nos entraves. Les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime. Les femmes, ensemble, révoltons-nous. Le vent ne va pas faire. Réprisons nos entraves. Debout, debout. Le vent ne va pas faire. Réjouissons sans entrave. Debout.
Passagem Nível, voltamos ao direto neste domingo, dia 5 de março, emissão com a difusão da noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Vamos até Portugal e o Parlamento debateu, na passada sexta-feira, 5 projetos para a realização do Conselho das Comunidades e hoje continuamos o debate, a discussão, eu quase ia dizer, a propósito do projeto de lei entregue pelo PCP para alargar as competências e reforçar o apoio do funcionamento do CCP. Connosco o deputado do PCP, Bruno Dias. Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estarem em direto connosco.
Obrigado, muito boa tarde. Um abraço para todos os nossos compatriotas, todos os portugueses e lusodescendentes que nos ouvem. Um abraço para a Rádio Alfa. É um prazer estar convosco.
Muito obrigada. Portanto, no Parlamento foram aprovados os projetos do PS, PSD e PAN. O projeto do PC, esse ficou pelo caminho. Ao que parece, as vossas propostas eram irrealistas, segundo o Partido Socialista. Aliás, houve uma troca de acusações com o deputado Paulo Pisco.
Foi uma oportunidade que a Assembleia da República em Portugal poderia ter aproveitado para desenvolver um processo em que a lei ficasse com um Conselho das Comunidades Portuguesas mais ativo e com mais meios para intervir. O deputado do Partido Socialista acusou de irrealistas as propostas do PCP, mas na verdade as propostas que o PCP apresentou foram defendidas e apresentadas durante muito tempo pelos próprios conselheiros, que identificam a necessidade de haver meios num orçamento próprio para que o CCP possa ter autonomia para fazer o seu trabalho, para que não tenha de estar a pedir ao Ministério autorização para fazer uma reunião, porque o trabalho do CCP tem de ser respeitado com dignidade. E não tem sido valorizado o CCP por parte dos governos. Por exemplo, o CCP nem sequer foi ouvido pelo governo, nem chamado a emitir posição, quando foi reduzida a rede consular, sobre a questão das permanências consulares, a definição da rede escolar, a questão da propina para o ensino da língua e cultura portuguesa às crianças e jovens do ensino básico e secundário. E, portanto, é preciso que o Conselho das Comunidades Portuguesas tenha meios, tenha autonomia para funcionar, tenha liberdade, e é muito preocupante que o PS e o PSD tenham dado as mãos para votar contra as propostas que essas sim, da parte do PCP, davam consequência prática e permitiam concretizar essa reivindicação tão justa por parte dos conselheiros. Autonomia, orçamento, meios para intervir e a capacidade de propor todos os anos que a Assembleia da República em Portugal possa fazer um debate dando essa importância e essa atenção às nossas comunidades espalhadas pelo mundo.
Aliás, Bruno Dias, o PCP tinha proposto o aumento de 80 para 100 conselheiros. Foi esse o pedido da parte mesmo do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, mas aparentemente a PS e PSD disseram não, não vai para além de 90.
Sim, nós afirmamos no debate da Assembleia da República sublinhamos a nossa posição de abertura para um debate construtivo em que pudesse haver um trabalho de todos para construir a melhor solução. Nós não estávamos a dizer que era um caso de vida ou de morte que devia ser 100 em vez de ser 90. Está provado que hoje em dia o atual número de membros do Conselho é insuficiente, porque é preciso fazer com que esta participação corresponda, no fundo, à realidade da nossa comunidade pela Europa e pelo mundo inteiro. Agora, a verdade é que o PS e o PSD não tiveram essa abertura que deviam ter e que seria importante que este debate e este trabalho tivesse. Portanto, fica aqui uma oportunidade perdida e esperamos que não haja um resultado deste processo, deste debate parlamentar, que agora vai passar para o trabalho chamado da especialidade na comissão, artigo a artigo, trabalhar o texto final que passou do debate desta semana. Esperemos que não venham aí mais soluções, que não venham aí mais notícias para o Conselho das Comunidades, porque é preciso dignificar e valorizar o Conselho das Comunidades e não subalternizá-lo. Não podemos considerar o Conselho das Comunidades como uma espécie de serviço de apoio ao Governo. Pelo contrário, temos de criar serviços de apoio e de funcionamento para o Conselho das Comunidades. É preciso criar estruturas de apoio. Não podemos transformar o Conselho num serviço de apoio ao Governo, com a obrigatoriedade de fazer relatórios às ordens do Governo, com uma espécie de restrição e de constrangimento para limitar, digamos, a capacidade de participação e de intervenção dos conselheiros, limitar os seus mandatos e a sua continuidade. Portanto, temos de estar com muita atenção àquilo que, na verdade, PS e PSD podem estar a preparar, porque às vezes pode aparecer uma boa promessa e o resultado ser um mau resultado. Não podemos aceitar que assim seja. Não é?
A propósito de limitar os mandatos, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas disse: bom, meus amigos, nós não somos eleitos locais em Portugal, porquê limitar os nossos mandatos? Bom, sabendo já das contingências e constrangimentos que os Conselhos das Comunidades têm para levar a cabo o seu trabalho, limitar o mandatos ou não? Qual é a ideia do PCP relativamente a isto?
O PCP manifestou uma discordância frontal. Nós estamos manifestamente contra as regras que são abstratas, regras que são distanciadas da realidade, porque numa realidade em que a participação dos nossos compatriotas não é a mais fácil, nós não estamos a falar de uma situação que seja muito simples, uma coisa muito indiferente para os nossos compatriotas participarem ou não nos conselhos das comunidades portuguesas. Muitas vezes é com sacrifício, é com muita dedicação. Temos que valorizar e respeitar muito os nossos compatriotas que têm feito ao longo dos anos o melhor trabalho que souberam e puderam fazer em prol das comunidades e em prol, digamos, do nosso povo, não é? Dos portugueses espalhados pelo mundo. E não é assim tão fácil dizer: olha, a partir de agora passam a aparecer muitas pessoas e passam a aparecer muitos jovens, muitas mulheres que vão estar disponíveis. Nós queremos que essa participação seja incentivada, queremos que essa participação seja valorizada. Nós até consideramos que a participação das pessoas enquanto conselheiros e ligadas às comunidades e até, por exemplo, ao associativismo que junta os nossos compatriotas em tantas cidades por essa Europa fora, não só na França, como em tantos países, não é? Essas casas autênticas em que Portugal está representado, isso deve ser incentivado e apoiado. Não é criar agora uma espécie de restrição burocrática, uma restrição na secretaria, sem ligar e sem apoiar o trabalho tantas vezes benévolo, tantas vezes voluntário, sem pedir nada em troca, que os nossos compatriotas têm por tantas cidades e por tantas regiões, e depois dizer agora, bom, tu que estás disponível, tu que tens feito esse trabalho, tu que tens dado o melhor que sabes e que podes, agora chega a esta data e já não podes continuar mais, obrigado e vai-te embora. Nós dizemos que as pessoas devem ser respeitadas e o conselho das comunidades deve ser valorizado. Algumas dessas propostas do PCP serviam mesmo, todas as propostas do PCP serviam mesmo para valorizar o Conselho, o seu funcionamento, a sua dignidade e o seu valor. Infelizmente o PS e o PSD não concordaram, mas aquilo que está, quer em relação à limitação de mandatos, quer em relação à composição das listas, lá está, é preciso que todos nós tenhamos muita atenção ao que está a ser preparado e rejeitar com essa clareza as medidas que estão autenticamente a desrespeitar, não é? essa participação tão importante.
Sim, entre as propostas do PCP estava a realização de um debate anual em sede da Assembleia da República relativa às comunidades portuguesas. Ora, durante este debate e faço os 5 projetos entregues sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, falou-se muito do voto eletrónico. Pois bem, aparentemente foram aprovados 2 projetos, não sei se eles não se excluem um ou outro, mas enfim, para já, projeto do PSD para testar o voto eletrónico não presencial para residentes e exentos no estrangeiro. Isto é o projeto do PSD, enquanto que o PS apresenta outro projeto de resolução que recomenda ao Governo que experimente o voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos e trechos das comunidades. Voto eletrónico, experiência ou não, o que é que pensa Bruno Dias?
Nós, em Portugal, quando no território português têm sido feitas experiências relativamente ao voto eletrónico em mobilidade, vamos lá, para toda a gente estar, algumas pessoas poderão não estar a lembrar-se ou a conhecer exatamente o que é esta coisa do voto em mobilidade. O voto em mobilidade é uma coisa que se faz em Portugal, e não só, mas nas eleições realizadas em Portugal, uma pessoa que no dia das eleições não possa estar no seu local de residência ou no seu local de votação, pode, uma semana antes, há mesas de voto que estão abertas por todo o país, e se uma pessoa que vive no Alentejo está naquele dia no Porto, uma semana antes pode votar no Porto, desde que se inscreva. Mas é presencialmente. E a experiência que foi feita em Portugal, em alguns locais...
Em Évora, nomeadamente, acho eu.
Foi, exatamente, foi exatamente em Évora. Foi nessa situação de voto presencial, voto eletrónico presencial, relativamente à eleição, à experiência piloto que foi feita. As pessoas chegavam, votavam na sua mesa de voto e havia uma máquina, como existe em alguns países do mundo onde essa tecnologia já foi aplicada. Atenção, há aqui uma diferença muito importante, para nós não falarmos de coisas diferentes como pelos vistos o PS e o PSD fizeram, porque isso depois acaba por confundir o debate e não estamos a falar das mesmas coisas e não estamos a falar com rigor. Quando nós falamos de um voto eletrónico presencial, isso tem uma vantagem, normalmente, que tem a ver com a rapidez no processamento das votações, é mais rápido ficarmos a saber os resultados e as contagens de voto dos votos que naquele dia aconteceram, tem um apoio informático muito mais rápido e muito mais eficaz, há menos erros e há menos protestos de situações que aconteçam, mas isto é tudo na base de uma votação presencial, é uma votação em que a pessoa foi ali àquela mesa de voto participar na eleição. Ora, aquilo que o PS está a propor é uma coisa que não acontece e que eles sabem que não podem estar a propor às pessoas, que nós saibamos, não está no horizonte haver voto em mobilidade do ponto de vista das comunidades e das eleições a realizar no estrangeiro, e o voto não presencial. O voto eletrónico a partir de um telemóvel ou a partir de um computador, etc. Bom, eu falo pelo meu partido. Eu sou deputado. deputado do PCP, e nós temos sido muito cuidadosos e chamamos a atenção que é preciso termos muito cuidado e muitas reservas sobre as questões da segurança informática. E hoje em dia já ouvimos demasiadas histórias que nem é preciso ser de um grande e poderoso país, uma grande potência militar e tecnológica. Não, hoje em dia é muito fácil até, de onde menos se espera, aparecem interferências, aparecem sabotagens e aparecem ataques, não é? Ciberataques, não é? Ataques à segurança informática, e estes processos não podem ser vulneráveis a isso. E hoje em dia é preciso ter muito cuidado com essa discussão. Chamamos a atenção para esse alerta. Não temos uma posição de preconceito, temos é uma posição que devemos ter responsabilidade e que devemos ter prudência nas decisões que tomamos. É isso mesmo, princípio da precaução, tal e qual.
Pois. Ora, Rondias, entretanto, bom, no meio disto tu tinhas falado de modificar as leis eleitorais no que diz respeito à imigração. Relativamente ao CCP, já há 2 ou 3 anos que andamos à espera de novas eleições. Finalmente, será que, segundo o Bruno Dias, o CCP, pode haver eleições para o CCP neste ano de 2023 ou não?
Eu sinceramente não sei responder, e vamos ver como é que correm os próximos meses do trabalho da Assembleia da República, do trabalho que vai acontecer, nomeadamente agora na especialidade, não é? Com as leis que estão agora a ser discutidas em relação ao CCP. Nós consideramos que é muito importante a participação dos nossos compatriotas e que o CCP seja, de facto, como deve ser, não é? O reflexo e uma voz ativa e concreta das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Acreditamos que a parte da legislação e a parte, digamos, operativa, não é? A parte prática de concretização dos meios para estes processos é um passo fundamental e indispensável. Nós não podemos ficar sem que essas coisas sejam tratadas, mas tratadas corretamente, tratadas devidamente. A partir daí, há um trabalho insubstituível nas comunidades, no terreno, com os nossos conselheiros e com todas as pessoas que trabalham junto do Conselho e das próprias, até das próprias associações, não é? O movimento associativo dos portugueses espalhados por toda a França, por toda a Europa, por todo o mundo, e esse processo não deve ser apressado, não deve ser feito de uma forma com ligeireza, deve ser feito de uma forma rigorosa, de uma forma séria e com respeito pelo trabalho das pessoas. Pensamos que isto não pode significar perder tempo. Não é? Perder tempo é outra coisa. Nós devemos ganhar tempo no sentido positivo. Devemos avançar para não estar com perdas de tempo. Nem fazer à pressa, nem estar a perder tempo. Temos que fazer as coisas com rigor, com seriedade, ter uma boa lei que deve ser aperfeiçoada. Estamos preocupados com isso, porque o PS e o PSD deram maus sinais relativamente a isso, da lei que devemos ter e que, pelos vistos, eles não querem. E além disso, há um trabalho da própria rede consular, da própria ligação do Estado português, não é? Do nosso país, do nosso Estado, às comunidades, e aí também há preocupações fortes do PCP. Temos levantado essas questões sobre a questão da rede consular, da aposta que deve ser feita para que todos os nossos compatriotas tenham uma porta onde se dirigir, tenham uma voz e uma pessoa a quem se possam dirigir, colocando os seus problemas, os seus anseios, e que Portugal seja mesmo, não apenas nas palavras, não apenas na propaganda, mas na realidade concreta, seja mesmo um país com 5 milhões de compatriotas por todo o mundo, que são tratados de igual para igual e que merecem e devem, de facto, ter o direito a esse cuidado dada essa atenção e esse respeito.
Sim, com efeito. Não é em Portugal que é necessário esperar 3 meses, quando se tem o agendamento, para poder fazer um passaporte ou um cartão de cidadão, como se diz agora. Mas, enfim, vamos continuar a falar nestas questões. Bruno Dias, muito obrigado. Relembro, deputado do PCP, isto a propósito de um certo número de projetos para a reorganização do Conselho das Comunidades Portuguesas. Vamos seguir isso da par e passo. Mas, como disseram desde o princípio deste CCP, é um mal necessário, dá jeito para uns e não serve nada para outros. Mas, enfim, veremos aqui o que se vai passar. Bruno Dias, muito obrigado.
Bom trabalho, um abraço para todos. Obrigado.
Obrigado. E nós estamos desaproximados das 13 horas, lembro, passagem nível, com a difusão da noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
É uma reunião direta, se dimanche 5 de março, passagem a niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Maintenant, on va parler de danse, plus exactement de la 22e édition de Biennale de danse du Val-de-Marne du 9 mars au 6 avril. Et avec nous, rien de mieux que parler avec la programmatrice de cette Biennale, justement, Madame Sandra Neveu, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour et merci de vous accueillir, de m'accueillir dans votre émission.
Ah, c'est avec plaisir. Alors, je rappelle, bon, vous êtes directrice de la briqueterie du Centre d'aide de développement au chorégraphique national, CDCN. Également, c'est vous qui avez fait la programmation de cette biennale. Alors, c'est une édition un peu spéciale. On peut dire qu'elle va célébrer la vitalité artistique des femmes et des Suds.
Tout à fait. Tout à fait. Dans cette vitalité artistique des Suds, j'ai souhaité aussi donner une large place à trois chorégraphes d'origine portugaise, donc Tania Carvalho, Jonas Elander ou encore Marco da Silva Ferreira, parce que je trouve qu'il y a effectivement une dynamique très particulière depuis une quinzaine d'années maintenant sur la scène chorégraphique portugaise.
Mmh. Oui, alors, parce qu'en tant que on part aussi en Afrique, au Brésil, en Espagne. Donc, elle a, disons, une cohérence, je pense, dans la programmation, c'est que c'est les femmes qui sont à l'honneur.
Alors, elles sont à l'honneur, oui, parce que elles sont porteuses aussi d'une grande richesse artistique. Voilà, je suis allée aussi à la découverte d'une multiplicité d'écritures. J'ai pas forcément choisi, commencé à compter le nombre de femmes présentes, mais il se trouve effectivement qu'il y a beaucoup de femmes dans cette programmation. Par contre, en tant que responsable artistique, effectivement, je me dois d'avoir une attention sur quel type de plateau on offre aux femmes aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est effectivement là que résident potentiellement des inégalités de traitement entre les artistes hommes et femmes, et que je souhaitais effectivement qu'il y ait une jauge assez conséquente, des grands plateaux aussi et des grandes formes artistiques qui leur soient proposées.
Mmh. Alors, c'est une édition qui associe mémoire et création ?
Tout à fait, puisqu'il y a des reprises de création comme Necessito de Dominique Bagoué ou encore Dance de Lucinda Childs, donc des œuvres du répertoire. Et par ailleurs, il y a effectivement des créations de la saison 2022-2023, des œuvres beaucoup plus récentes. En tout cas, c'est effectivement une ligne un petit peu élastique comme ça que je souhaite tirer afin que les spectateurs aient une multiplicité et puissent se construire, s'ils suivent plusieurs créations, une idée de plusieurs histoires de la danse possibles.
Voilà, je peux dire que peut-être cette programmation, c'est un genre de trois miroirs et qui se regardent, qui se croisent, célébration, transmission, imagination.
Tout à fait. En tout cas, c'est effectivement des miroirs qui s'entremêlent aussi, puisque des œuvres pourraient très bien rentrer dans ces trois miroirs. Effectivement, il me semble que cela peut apporter aussi une grande vitalité. Et il me semble aussi que les questions de transmission, d'héritage ou d'imagination avec la création d'utopies chorégraphiques sont beaucoup à l'œuvre aujourd'hui sur les plateaux artistiques.
Voilà, tout un travail. Alors, si on parle justement des créateurs portugais qui ont été présents, un exemple, Marco da Silva Ferreira, il combine l'énergie des danses urbaines et traditionnelles, tandis que le duo portugais Jonas Elander, là, ils ont inventé un fado déjanté.
Oui, alors ils sont allés explorer un peu l'histoire du fado. Et de la danse disparue du fado, puisqu'on a conservé uniquement la musique, et il s'attache à chercher à réinventer cette danse-là, tout en s'accordant beaucoup de liberté, puisque il n'en reste que peu de traces. Voilà, c'est là aussi des démarches qui s'inscrivent aussi beaucoup dans la question des héritages, qui les prennent en considération et qui les réinventent aussi. Alors c'est le cas aussi de Marco Ferreira da Silva, qui pour le coup travaille une forme d'hybridité et un syncrétisme entre des danses populaires et
urbaines d'aujourd'hui. Hein.
Et urbaines, voilà, exactement. dans une chorégraphie extrêmement énergique.
Alors maintenant, on parle, disons, dans la fantaisie. Bon, je veux parler de Tania Carvalho avec oui. son spectacle Versavis. Et apparemment, c'était une commande de la Biennale.
Tout à fait. Donc, Tania va créer donc samedi 11 mars prochain au Théâtre de Cachan une toute nouvelle création. Voilà, toujours avec son univers extrêmement fantaisiste, qui à la fois nourrit du ballet classique, mais qu'elle s'amuse avec beaucoup d'humour à déconstruire. En même temps, c'est quelqu'un voilà, qui a de multiples influences à travers le cinéma muet, la pantomime, qui travaille aussi beaucoup un univers grotesque et qui est aussi qui déploie aussi une grande musicalité dans son travail puisqu'elle est elle-même compositrice interprète. Voilà, tout ça, ça fait quand même une très grande richesse et c'est une écriture chorégraphique vraiment très singulière et remarquable que déploie Tania depuis maintenant un bon nombre d'années. Donc j'avais envie qu'elle soit effectivement à l'honneur dans cette dans cette biennale.
Voilà, tout à fait. D'autant plus que en 2022, bon, ça dans le cadre de la saison croisée France-Portugal, elle a fait au moins 9 spectacles en France, notamment dans la région parisienne. Donc, c'est ça que vous disiez de Tania, c'est qu'elle lit la danse, la musique, le cinéma. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on pourra la voir effectivement le 11 mars. Madame Neveu, merci. Donc, pour pouvoir avoir le programme complet, parce qu'il y a des ateliers aussi. Je n'ai pas encore parlé des ateliers, mais le mieux, c'est d'aller directement au site de...
Sur le site de la
Brigitte. Sur le site, oui, voilà.
.org. Et vous trouverez toutes les informations relatives à cette 22e Biennale de danse du Val-de-Marne.
Donc, ça démarre le 9, du 9 mars au 6 avril. Je vous remercie beaucoup. C'est le cas de vous dire bon vent à cette 22e édition,
bien
de danse des Val-de-Marne. Et bon, et chose de promise, chose due, parce que, Tania, on a dû l'interviewer hier parce que, actuellement, elle fait les répètes.
Elle est en création, exactement.
Voilà.
Elle est en train de finir sa pièce. Voilà. À
Cachan. Bon, donc je l'ai kidnappé pendant 10 minutes hier et c'est ça qu'on va écouter maintenant. Merci bien.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Tania.
Tania Carvalho, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigada eu.
Versavis é o tema da peça que irá apresentar aqui, mas quando se fala de Tania Carvalho, à dança, à música, ao desenho, ao filme, de maneira que a Tania tem diversas vertentes, não?
Sim, dizem que sim. Tenho, eu gosto de explorar várias áreas. Acho que o lado artístico mostra-se diferente conforme a área que estou trabalhando. E há ideias ou coisas que surgem que pedem uma certa área que a outra não dá para fazer. E por isso é que gosto de explorar as várias áreas nesse sentido.
Ora, podemos dizer que tem uma relação muito, muito especial com a França, não? Porque se voltarmos ao ano de 2022 e no âmbito da temporada Portugal-França, foram 9 espetáculos,
não? Sim, foi? Foram 9, acho que 9 espetáculos, não me lembro certo, não, 8, 9. Fiz vários espetáculos, fiz o concerto, fiz também uma exposição, mostrei o filme, mostrei várias vertentes também. Foi, e a França sempre, já há muitos anos, que é muito importante no meu percurso. Tem muito apoio daqui de França.
E eu tenho uma relação muito especial também com Marselha.
Com Marselha também, estive muitas vezes no CLAP, trabalhei com o Ballet de Marselha, passei lá muito tempo, grande parte da fase de Covid passei a trabalhar lá. E para lá temporadas. É uma cidade que gostou bastante, sim.
Tânia Carvalho, alguém que escreveu de si, que reinventou o expressionismo, que foi a pioneira de um renascimento da dança que mais tarde se espalhou por toda a Europa. Quem o disse e quem escreveu foi Claire Verlet, que é responsável da programação do Teatro de la Ville de Paris.
Sim, eu li isso. Eu faço as coisas sem pensar nessas ideias, não é? Eu faço o que me surge e depois aos pensadores, as pessoas que observam e veem as peças que escrevem sobre. É engraçado ouvir isso. Eu realmente gosto muito de... Sempre gostei muito do expressionismo, mas, como disse, eu não fiz de propósito para fazer um novo perfeccionismo, fui fazendo aquilo que me surgia e depois é analisado dessa forma e acho bonito.
A Tânia vai estrear a peça, como eu disse há instantes, Verse Vice, no dia 11 de março, no quadro da Bienal de Dança do Val-de-Marne. Eu tenho a impressão que é um jogo de palavras, não? Um jogo de palavras, Verse Vice. Talvez valha a pena explicar isso tudo, porque, ao que parece, a peça é sobre isto e aquilo.
Quer dizer, no título tem esse jogo de palavras, Verse Vice. Acaba por ser a mesma coisa que dizer nada, não é? Diga isto ou vice-versa. Se eu disser versa-vice, é o mesmo que não dizer. Porque vice-versa é ao contrário. Versa-vice volta a ser o normal, entre aspas. Portanto, é um bocado... Quando digo, a peça é sobre isto ou sobre aquilo, acho que escrevi. É sobre isso naquele momento que eu estou a dizer, mas a peça é sempre sobre imensas coisas que nós nem sabemos quais. Por isso, dei este trocadilho.
Bem, será que esta peça, vamos não sei se é uma constante ou não do seu trabalho, são as suas preocupações face ao mundo que é o nosso hoje?
Sim, não sei se digo preocupações. Eu normalmente tento seguir aquilo, sou um bocado intuitiva na forma de criar. Mas há muitas coisas que me surgem, pensamentos, ideias sobre o mundo, claro, mas são ideias muito vagas e às vezes muito complexas, mas que abrangem muita coisa. E é muito difícil especificar, às vezes, é sobre isto, é sobre aquilo, é sobre este tema. Eu, por exemplo, estou muito, nesta peça, inspirei-me imenso na ideia das pessoas quererem fazer previsões ou saber o futuro, ter aconselhamentos. Nós andamos sempre à procura de sermos melhores, de encontrar a nossa forma melhor de existir, por isso brinquei um bocado com a imagem do tarô, ler o tarô e os símbolos do tarô, porque é que estamos sempre a procurar estas explicações para nós próprios, não é? Parece que queremos explicar porque é que estamos a viver. E é um bocado essa brincadeira, se tivesse a vista também aí, porque nós não vivemos só, temos sempre esta necessidade de estar à procura de uma explicação para a nossa existência. Cado por aí.
Mas a vice-versa é um trava-línguas? De uma forma, digamos, de subverter, bom, temos o que eu estou a citar assim, subverter de forma onírica o significado das coisas, olhando através de diferentes centros.
Mas isso não fui eu que te vi, deve ter sido alguém.
Ah, e então corresponde...
Mas sim, é uma forma onírica, porque esta peça surgiu um bocado depois do Onironauta. E eu parecia que ainda tinha coisas para dizer em relação a essa peça, mas não... Não é um Onironauta 2, é uma peça completamente diferente, mas tem algumas coisas que surgiram daí, de eu ver o Onironauta, da experiência de fazer essa peça e desta necessidade de estarmos a explicar, tem dos sonhos também, nos sonhos, queremos interpretar os sonhos. Depois o título, eu não sabia bem que título dar, na verdade, nesta peça. Já passou por várias fases e cheguei a esta ideia, porque na verdade não quer dizer nada, deve saber-se.
Agora o que é preciso é que possamos ver o espetáculo. É verdade que este seu trabalho foi um desafio lançado pela Bienal do Val-de-Marne?
Foi um desafio. Eles propuseram-me estrear uma peça aqui neste festival. Eu aceitei. Pronto, foi assim. Foi quando estava a apresentar o Neuronauta. Tive uma reunião com a diretora e ela propôs. Ah, gostava muito que estivesse uma peça No festival, na próxima edição. Foi assim.
A vida é a dança?
A vida é a dança. É a dança porque é movimento, não é? É um movimento, é ritmo. Se as coisas param, é mais por aí. A energia da vida, para mim, é uma dança. Eu sinto que seja uma dança.
É a dança da vida, então. A vida é a dança, mas é a dança da vida, finalmente.
Não da vida do dia-a-dia. Eu digo a vida em termos de energia. A energia da vida... É uma dança que está aqui dentro de nós, está por nós, está por tudo que existe. Não sou só eu que digo, há todas as outras doutrinas que defendem estas ideias.
Ora, a Tânia, uma pergunta ainda. Vivemos a Covid, vivemos durante praticamente um ano e meio fechados, e a cultura foi um dos setores que foi mais afetado, porque, aliás, foi em Portugal, foi em França, aqui vivemos isso também, a cultura não era essencial. Será que hoje ainda, bom, para esse mundo fora, a começar pelos dois países, França e Portugal, será que a cultura não lhe é dado o verdadeiro valor que ela tem e a nossa necessidade para vivermos?
Pergunta é muito complexa, não é? Porque não sei se quando se fala do valor que damos à cultura, se é financeiro, se é o valor, de facto, existencial, emocional.
É o valor da cultura para ela própria. O lado financeiro ainda é outra coisa.
Eu acho que nós damos valor à cultura. Até porque nós viajamos e vamos ver coisas, normalmente procuramos as coisas culturais, ou seja, a arquitetura, ver um monumento, ver. Todas as pessoas procuram um bocado de cultura, nem que seja na televisão também, quer dizer, em todo lado, na música, no... as pessoas sabem que isso tem valor, só que se calhar não racionalizam tanto, não pensam, isto... Mas toda a gente vive com a cultura. É uma pergunta muito complexa. Agora, se há muitas pessoas a pensar sobre isso e a debater e a pensar na necessidade da cultura, seja lá na educação, em tudo, se calhar não, mas acho que mesmo sem falarmos dela e sem pensarmos nela, ela existe naturalmente, porque a natureza, nós somos natureza e a natureza é criativa. Não há duas folhas de árvores. É assim, nós estamos sempre a criar coisas novas. É uma necessidade também para continuarmos a viver. Se fosse tudo já formatado, igual, não sei, era outro mundo, não era o mesmo.
É verdade.
Portanto, a importância que existe é porque é mesmo necessário, senão também morríamos, acho eu.
Sim, e fazemos cultura sem nos darmos conta disso. Bom, enfim.
Sem nos darmos, sim, e vivemos com ela sem nos darmos, faz parte da nossa vivência, por isso acho que a importância está lá, quer a gente ache que sim ou não.
Sim, mas é necessário que haja liberdade também, porque vemos contar os regimes ditatoriais, como houve o regime fascista em Portugal, vimos que a cultura essa não tinha direito, isso era então uma certa cultura ao serviço do regime, enfim, isso é outra história.
Claro, depois já são outras coisas que acontecem através da cultura, ou com a cultura, se é limitada, se não é limitada, mas que ela existe para nós. Desde sempre existe e nós vivemos sempre com ela, mesmo que seja castrada, ou que seja, eu acho que existe sempre qualquer coisa. Mas pronto, devíamos ser todos livres de fazer o que temos vontade de fazer, não é?
E voltamos ao Direto à Passagem Nível neste domingo 5 de março. Deixamos a dança, agora vamos falar de música e não só. Cultura e património, isto a propósito do projeto de Hub, uma plataforma de património europeu que deve permitir precisamente juntar competências diversas e pôr em comum igualmente os recursos. Jaxaminé, muito boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigado eu.
Ora, Centro Européen de Musique, Bougival, já lá iremos, mas há que referir que foi o Jorge Miné que esteve um pouco também no lançamento desta iniciativa, que é uma iniciativa europeia, Europa Nostra. Talvez explicar a gênese deste projeto.
Claro. A Europa Nostra, como sabe, é a voz da sociedade civil para a defesa do património cultural europeu, material e imaterial. Uhum. Eu sou membro do Conselho da Europa Nostra já há vários anos e a Europa Nostra tem sido um grande apoio do nosso projeto do Centro Europeu de Música. O Centro Europeu de Música, nesta plataforma, é a única instituição musical que vai defender, portanto, a necessidade imperiosa de inscrever a música no coração da sociedade e de defender um património, e nomeadamente hoje, com os teatros de guerra que se multiplicam e com a destruição de património absolutamente impressionante, não é? A Ucrânia neste momento está a ter imensas dificuldades, como sabemos todos, mas sobretudo com uma destruição massiva por parte da Rússia do património ucraniano. Portanto, tudo isto é para inscrever, já que somos projeto piloto da União Europeia, inscrever a cultura como alicerce fundamental da construção europeia.
Ora, o Centro Europeu de Música, aparentemente, é o único organismo que representa precisamente a música no seio desta plataforma.
Exatamente, exatamente. Somos a única instituição musical, portanto temos uma grande responsabilidade e é evidente que hoje, com o que nós inventamos, entre aspas, que é a via música, portanto todas as ligações, toda a transdisciplinaridade, graças à música, que podem, na verdade, estabelecer um diálogo que hoje é absolutamente fundamental.
Ora, Jorge Chaminé, há um certo número de organismos de vários países que estão, que participam neste projeto piloto, entre eles o Centro Nacional de Cultura.
Exatamente. Exatamente, presidido pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins, e com o qual temos também uma relação não só de amizade, mas também de parceria, já que o Centro Europeu de Música e avanço com esta notícia, que na verdade me dá uma imensa satisfação, é que haverá antenas do Centro Europeu de Música em Portugal, nomeadamente em Lisboa e em Mafra, e provavelmente com um alargamento a outras cidades. Nós temos estado, ao longo destes anos, a inscrever, na verdade, a música como o motor de uma identidade cultural europeia, mas que não fica no nombrilismo europeu, mas que estabelece também relações com outros continentes, e nomeadamente com a América do Sul, onde vou estar no mês de abril. Portanto, para nós é muito importante, uma vez mais, realçar o facto de que a música é diálogo entre os povos, diálogo entre as culturas, e que ela merece ser convidada ao banquete da res pública.
Jorge Chaminé falou de música, estou a recordar devidamente todo o trabalho que tinha feito com jovens palestinianos, israelitas, libaneses, isso tudo, e essa frase que disse há instantes, a importância da música, porque finalmente a música pode unir os povos, pode ultrapassar muitas coisas, e não foi por acaso que, quando estivemos confinados com a Covid, com isso tudo, todo o setor cultural, a começar pela música, as livrarias, não éramos um bem essencial.
Exatamente, isso foi um grave erro, apesar de que a França foi um dos poucos países que apoiou de maneira substancial o mundo da cultura em geral, não é? Eu sei, evidentemente, com todas estas antenas que se estão a prefigurar em outros países, e eu vejo quão foi difícil para os músicos e para os atores do mundo cultural o período da pandemia noutros países em que não houve qualquer tipo de ajuda. E isso é importante realçar.
Sim, os intermitentes de espetáculo, e não só. Uma questão concreta relativamente a este projeto piloto. Bom, trata-se de um projeto financiado pela União Europeia. Durante 2 anos, da primavera 2023 até a primavera 2025, já estão algumas iniciativas previstas? O que é que se...
Sim. Já estamos a realizar, apesar de que é, portanto, o anúncio foi feito há poucos dias, mas nós já estamos a trabalhar, e sobretudo com ações muito concretas, e nomeadamente também com uma parte da Europa um pouco esquecida e onde o património é fundamental, que são os países dos Balcãs.
Um projeto que é bastante importante, já falámos nele já há muito tempo, aparentemente já tem pernas para andar. É verdade que 2022 terminou o ano e terminaram com as últimas obras de restauração da Vila Viardot, em Bougival?
Exatamente. Vamos inaugurar no outono de 2023 a casa. Portanto, será um momento muito emotivo e muito importante para nós, já que foi um património que estava completamente esquecido e onde a Europa, de uma certa maneira, viu o dia nos diálogos impressionantes entre escritores, poetas, músicos, artistas plásticos, políticos, historiadores, filósofos, que se encontravam à volta desta senhora, que na verdade foi, para mim, uma das mães da Europa, que foi a Pauline Viardot.
Mas na iniciativa e a acompanhar o Jorge Mendes teve também uma grande senhora, a Teresa Bargança.
Sim, sim, sim. Essa, na verdade, foi um dos grandes apoios do nosso projeto e, infelizmente, faleceu o ano passado. E é uma grande perda para o mundo da música, mas não só. Para mim, em especial, porque era uma grande amiga. Uma grande amiga com a qual tive a honra de cantar muitas vezes e que foi também a minha professora.
Bom, continuamos a avançar, porque quando se fala deste projeto, há que referir que, bom, o Jorge Mendes teve mesmo a visita do casal presidencial.
Sim, sim, e aliás, o presidente Macron e a sua esposa continuam a declarar quão importante este projeto é. Agora é evidente que aqui em França as coisas são um pouco mais complicadas que noutros países, não é? Isto é um mil folhas administrativo que, na verdade, pois, necessita tempo, necessita persuasão, necessita perseverança. E é evidente que numa sociedade cada vez mais dividida e um pouco de curto termo, estamos a perder, no fundo, uma vontade que foi nossa desde o início, mas que é um pouco complicado. É um pouco complicado. Sim. Mas nós continuamos a avançar. É evidente que o Centro Europeu de Música em Bugival vai existir. E o que é importante é que neste momento estamos a estabelecer antenas na Via Música em vários países, como Portugal, como Espanha, como Itália, como a Grécia, como a Alemanha, a Áustria, a Suécia, onde estamos, evidentemente, a pôr a música em temáticas distintas. Por exemplo, em Córdoba será música instrumento de paz, realçando o facto de que durante o período do Al-Andalus e de Sefarad, as três religiões abraâmicas coabitaram, coexistiram, dialogaram e criaram. E é isso que é fundamental num mundo cada vez mais dividido, provar que houve momentos na nossa história humana que foi possível o diálogo. E hoje estamos, na verdade, num movimento cada vez mais exponencial de divisão e a música está aí para unir.
Isto tem a ver com a rede cultural europeia Via Música, ou não? Ou ainda é outro projeto?
Não, é um projeto, aliás, é essa a força que foi reconhecida pela União Europeia, que nós hoje estamos a construir uma plataforma única com mais de 120 parceiros no mundo inteiro. Uma vez mais realço o facto que não podemos parar só na defesa do património e impor em ação todas estas antenas só na Europa, mas também, e nomeadamente, com o próximo e Médio Oriente, com a África e com a América Central e do Sul, que são quase sempre os esquecidos.
Sim, e quando nos lembramos de um certo número de música, estou a pensar no fado, por exemplo, sem esquecer o jazz, sem esquecer o samba, tudo vem da África. Isto é um exemplo, não?
Exatamente, e temos que estar reconhecidos que na música, e é isso a força da música, a hibridez da música, faz com que todas essas influências possam ser alimento de criação. E isso é absolutamente fundamental, e nomeadamente em relação à África e em relação às Américas, mas sobretudo à América Latina.
Uma última pergunta, Jorge Miné. No projeto, precisamente em Bugival, falava-se de ateliês para jovens músicos e não só intérpretes, de maneira que isso já começa a ter...
Sim, aliás, com o apoio também da União Europeia, porque seremos a primeira plataforma europeia de inserção profissional dos jovens músicos. Portanto, isso para mim também é muito importante, porque os jovens músicos hoje, com a redução cada vez maior da música na nossa sociedade e que passa a ser somente ou um objeto de consumo ou um divertimento, e a música é muito mais que isso. Portanto, portanto, é preciso ajudar os jovens músicos.
Sim, porque eles têm a impressão que vão ter um enquadramento, digamos, completo, porque eles podem residir no próprio lugar, isso tudo, não é? De maneira que há todo um acompanhamento.
Exatamente, exatamente. Há uma casa intergeneracional, onde exatamente os músicos da academia vão coabitar com os músicos reformados. Isso para mim é muito importante.
Extraordinário. Bom, este é, bom, como diz outro, bom, la boucle, boucle, Jorge Chaminé. No bom sentido do termo. Jorge Chaminé, obrigadíssimo, relembro, marido.
Obrigado,
marido, né, e presidente fundador do Centro Europeu de Música, em Bougival. Uma última pergunta. Será que, na Vila Viardot, vocês não são incomodados lá pela festa do Senhor Neymar?
Eu olho, não sei. Olha, o Senhor Neymar poderia ser um apoio para o Centro Europeu de Música. Vou-lhe dar uma lista de obras musicais para ele fazer nas festas.
Jorge Chaminé, muito obrigado e até para a próxima, então.
Um grande abraço. Muito obrigado e bom domingo para todos.
Muito obrigado. Passage à niveau et on arrive presque à la fin de l'émission de ce dimanche 5 mars. On va partir à Dijon, pas tout de suite, mais enfin, on va attendre le 9 mars, mais enfin, on est en chemin. Ça, pour parler d'une ville en papier. Il s'agit d'un spectacle, ou plus exactement, un voyage poétique et musical dans l'imaginaire de qui de Hélène Vierge de Silva. Ça va être représenté le 9 mars au musée des Beaux-Arts de Dijon. Florence Évrard, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Arthur.
Merci. Donc c'est un spectacle présenté par la compagnie Lagarde. On a déjà eu occasion de parler de ce spectacle avec tout ce qu'il y a derrière, parce que derrière Vieira da Silva, il y a tout un imaginaire, comme j'ai dit. Il y a la vie de Lisbonne, il y a la poésie et tout ça. C'est votre faute puisque c'est vous qui faites la conception artistique et vous interprétez aussi. Donc c'est votre faute. Bon, vous l'assumez.
J'assume totalement. Alors, en plus, nous sommes vraiment très heureux, là, parce que pour cette représentation à Dijon, en fait, il y en a deux. Il y en a une à 18h30 et une à 20h30. Ouais. Mais parce qu'enfin, on va pouvoir jouer au milieu des œuvres de Vieira. Et c'est, l'exposition magnifique. Il y a des tableaux qu'on voit rarement, enfin qui sont rarement exposés, et donc c'est vraiment pour nous un grand honneur et plaisir d'être enfin parmi ces œuvres qui nous ont tellement inspirés et de pouvoir retranscrire sa parole. Je pense que ça va être un beau moment, entre l'art pictural, la musique. Et puis aussi la poésie.
Voilà, donc l'exposition pourra l'avoir jusqu'au 3 avril 2023. Bon, mais revenons un petit peu à ce spectacle. Bien entendu, quand on parle de Vieira da Silva, il y a aussi des poètes. Des poètes portugais, mais tout est parti finalement de l'univers de Vieira da Silva et un rapport très rapproché, un rapport vraiment intime avec Lisbonne.
Complètement, en fait, avec son travail, avec sa parole, puisqu'il s'agit en fait d'une interview qu'elle avait donnée à Georges Charbonnier, à l'époque, sur France Culture, qui est dans le monologue du peintre, et où elle parle de son rapport à son œuvre et à sa recherche, et où elle nous amène vraiment dans l'intimité de la création. En fait, qu'est-ce qui est en jeu dans ce qu'elle cherche, son combat même avec le visible, ce qu'elle cherche à représenter, parce que Vieira, c'est pas seulement représenter la ville, c'est aussi représenter l'espace-temps. Et c'est c'est vraiment pour moi une espèce d'aventurière de la peinture. dans sa façon de concevoir le monde, dans sa philosophie, dans sa très grande vérité intérieure, l'intimité qu'elle a, comment elle assume l'incertitude, comment elle recherche toujours sa liberté de créatrice. Et je trouve que cette parole-là, aujourd'hui, elle est très importante à faire entendre parce que voilà, on est dans une époque où on sent que les choses se resserrent et où cette espèce-là de la liberté, de la création, s'amenuise. Alors, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, cette parole, et puis aussi sa démarche, son œuvre. Il y a quelque chose de très intime, de très sensible aussi, de très vrai dans son travail.
Mais justement, Florence Évreur, ça n'a pas été facile de rentrer dans l'imaginaire, dans... Je dis pas dans la tête, parce que ça, avec Vieira da Silva, c'est son ses tableaux et qui parle. Elle a pas besoin de parler, elle peint. Mais justement, parce que c'est un univers un petit peu à part. Faut déjà voir sa vie. Quelqu'un qui est venu du Portugal. À un moment donné, elle avait plus la nationalité portugaise parce que Salazar, le fasciste, l'avait retiré. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale ici en France et avec son mari, justement, elle a dû s'exiler. Donc, c'était un univers, bon, je ne sais pas s'il était tourmenté, il y avait quelque chose comme ça. Alors, ma question, je vais y arriver, c'est justement comment vous arrivez à traduire ça sur scène?
Ah.
Eh oui.
Alors là, quand on a joué à la Maison du Portugal, et puis enfin bon, à l'Université Bordeaux-Montaigne, on avait un dispositif scénique, pictural que j'avais créé. Mais là, on va être au milieu de ces œuvres. Donc ça va évidemment créer une résonance très forte. Et puis il y a aussi le rôle de la musique, la composition qu'a faite Aurélie Pichon, qui nous accompagne à la clarinette, qui est l'interprète en direct, et comment ça s'entremêle, et aussi avec les poètes portugais qu'on a choisis, et qui éclairent, on va dire, de leurs mots aussi, de leur poésie, tout le rapport à la ville, à Lisbonne, à la lumière, qu'on retrouve évidemment dans les tableaux de Vieira. Donc c'est cet entrelacement en fait de plusieurs voix, on va dire, moi qui m'intéressais, parce qu'il me semblait qu'on pouvait pas parler de Vieira finalement sans parler de la musique aussi, de l'importance que la musique a eue dans sa vie, de ce langage, qui n'est pas articulé par des mots, mais qui ressort d'une autre dimension. Vieira était, je pense, quelqu'un de très angoissé, mais ce qui est aussi très beau dans son parcours, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure de sa vie, de son œuvre, et curieusement, après la mort d'Arpad, il y a une forme de dépouillement et elle va de plus en plus vers la lumière. Et ces derniers tableaux en témoignent, quoi. Une grande percée vers le très très lumineuse, quoi.
Florence, une question, je pense, à Bordeaux, je ne sais pas, mais à la Maison du Portugal, on parle tout ce qui se passe autour. Il y avait une tapisserie, elle sera présente à Dijon aussi ou pas?
Et non, parce qu'on sera en déambulatoire. Ça va être une autre forme. Ça sera on a construit un parcours en déambulation, donc au milieu de l'exposition et des tableaux, où on amène le public et où il sera guidé par la clarinette d'Aurélie. Mais ça sera une autre expérience, un autre spectacle, mais je pense que ça va être très intéressant.
Et ça va être filmé?
Je vais essayer de filmer. Oui.
Non, parce que c'est
je vais essayer de garder une trace, bien sûr.
Voilà, ouais. Parce que le cadre où ça va se passer. Mais il n'y a pas eu des problèmes de sécurité parce qu'on sait que les tableaux de Vieira da Silva, ça vaut une fortune chaque tableau.
Comment vous... Oui, mais bon, Donc c'est le musée qui vous accueille, donc le musée de Dijon, donc c'est la sécurité est assurée par on est complètement encadré par la direction du musée, bien sûr.
Alors quand on parle de Vieira da Silva, bon, je pense qu'il y a 15 années vous avez visité son musée à Lisbonne.
Oui, bien sûr.
Et
bien sûr la fondation. Et puis j'avais surtout vu, le point de départ de tout ça, c'est que j'avais vu une exposition en 1999 au musée Mayol, une rétrospective qui était très belle, et qui m'avait aussi beaucoup, fait poser de questions, voilà. Alors moi je viens de la, donc du théâtre, je suis scénographe à la base, et le fait que Vieira et conserver la perspective dans ses tableaux et beaucoup travailler autour de ça, autour d'espaces qui s'empilent les uns à travers les autres et où le temps est aussi présent. Pour moi, ça a été comme ça que je suis rentrée dans son œuvre. Enfin, d'ailleurs, elle le dit, hein, quand elle a eu 9 ans, elle a eu l'obsession du théâtre. Elle le dit dans un petit texte. Voilà. Je crois qu'elle cherche quelque chose de très intéressant, hein, mais même qui recoupe en fait certaines recherches scientifiques autour de l'espace et du temps.
Oui, et au niveau de la perspective aussi. Oui. Parce qu'il y a des tableaux vraiment, on dirait des petits carrons en céramique. Des petites choses merveilleuses. Et une fois, un salon, bon, c'est disparu, un salon à Paris, il y avait un tout petit tableau, il faisait pas plus de 10 sur 10. Qui coûtait à l'époque 200 et quelques 250 000 ou 300 000 francs. Bon, c'était des francs à l'époque, hein, mais enfin bon, ben c'est pas la taille qui fait la grandeur de l'œuvre, c'est le cas de le dire. Une bonne occasion d'aller jusqu'à Dijon le 9.
Tout à fait. Vraiment, je pense que voilà. Enfin, et de toute façon, il faut voir absolument cette exposition qui est un merveilleux hommage à Vieira da Silva. Voilà. Vraiment.
Et que c'est très rare en France de voir un certain nombre de tableaux qui sont au même endroit. C'est rarissime d'ailleurs.
Oui, là, en fait, le musée de Dijon a un fonds important qui vient de la collection Grandville. Et donc, ils sont utilisés, mais il y a aussi beaucoup d'autres tableaux qui ont été prêtés par des collectionneurs privés. Et je pense que ça va être. Enfin, voilà, que l'exposition L'œil du labyrinthe a été présentée à Marseille, au musée Cantini. Mais là. Ça va être on n'aura pas l'occasion de voir.
Alors, Florence Evra, merci. Mais il faut quand même parler parce que vous n'êtes pas toute seule en scène, vous.
Tout à fait. Alors, il y a Isabelle Gozard, une merveilleuse actrice qui interprète, qui porte la parole de Vieira, qui l'incarne. Philippe Dastin, qui est le lecteur de tous ces poètes portugais qu'il fait avec énormément de sensibilité, et Aurélie Pichon, la compositrice et musicienne.
Et vous-même aussi, vous serez sur scène.
Là, je serai en retrait là pour cette représentation. Là, je serai en retrait. D'habitude, je suis aussi au plateau et dans la ville de papier, mais là. Je serai en retrait.
Voilà. Bon, Dijon, c'est pas une ville à papier, loin s'en faut, parce que au-delà d'aller au musée voir l'expo de Vieira da Silva, c'est une zone gastronomie, je vous dis pas. Bon, avec des bonnes choses à boire, mais avec modération, c'est le cas de le dire.
Oui.
Merci Florence Evrard. Et maintenant, bon, on va profiter pour passer une chanson. Une chanson, le texte c'est de Sophie de Merlbrenner, justement. Et je pense que là c'est un petit clin d'œil parce que c'est Francisco Vanhaes qui chante. C'est quelqu'un qui a été exilé ici en France. Vous voyez, et qui est reparti au Portugal en 1964. Donc, Vieira da Silva, Sophie de Merlbrenner, et le 25 avril, bon, la boucle est bouclée. Merci Florence, à très bientôt.
Merci beaucoup Arthur.
Au revoir.
porque os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. Lará, lará, lará. Outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. Lará, lará, lará. Se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. Lará, lará, lará.
Francisco Pinhais, o tema Porque, porque um poema de quem de Sofia de Mel Brainer, nem mais nem menos, e fazemos a ligação com o espetáculo La Vira en Papier. E estamos na altura de dizer adeus, até à próxima semana. Obrigado, Manuel Alexandre, bem-ajam, e bom, o tempo não está agradável, mas enfim, viva a vida.